RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Gaëtan Plenel.
Ah, bonjour Julien, bonjour à tous.
Le Hezbollah revendique ce matin des frappes dans le nord d'Israël.
Sur une base militaire près de la ville d'Haïfa, l'armée israélienne continue elle aussi ses frappes au Liban. Et l'une d'elles a blessé deux nouveaux casques bleus de la Finul hier, deuxième incident du genre en deux jours. Pas de changement au bulletin pour la France, 17 sur 20, ou plutôt double A moins, verdict attribué par l'agence de notation Fitch, qui rajoute quand même cette fois une perspective négative, alors que le gouvernement français vient de dévoiler son projet de budget pour 2025. La Chine elle aussi annonce la couleur pour renforcer son soutien à l'économie et ça passera par un recours massif à l'endettement public. 600 policiers kényans supplémentaires bientôt déployés en Haïti pour renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité, promesse faite hier par le président kényan William Ruto. Et puis à un mois de la COP29 sur le climat, les pays en développement veulent davantage d'aide de la part des pays riches pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ça semble mal parti après une réunion informelle hier à Bakou, on y revient à la fin de ce journal.
Demandez-vous à Israël d'arrêter de frapper les forces de maintien de la paix de l'ONU, question d'un journaliste américain hier.
Et réponse presque lapidaire du président Joe Biden, absolument, tout à fait. Alors que deux nouveaux casques bleus de la Finul, la force intérimaire des Nations Unies, ont été blessés hier par des tirs israéliens dans le sud du Liban. Ça fait 4 blessés au total en 2 jours au QG de la force à Ras al-Nakoura. L'armée israélienne se défend à nouveau, affirmant avoir tiré en direction d'une menace près d'une position de la Finul. Mais ça ne suffit pas à calmer la vague d'indignation internationale intolérable, dit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une violation des résolutions de l'ONU, abonde la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, tandis que la France convoque l'ambassadeur d'Israël. La journée d'hier a aussi été marquée par la mort de deux soldats libanais. Et puis au milieu de ces combats entre Israël et le Hezbollah, il y a aussi des médecins, des secouristes. Ils sont plus d'une centaine à avoir été tués au Liban depuis un an, la plupart ces dernières semaines. Correspondance à Genève, siège de l'Organisation Mondiale de la Santé, Jérémy Lanche.
L'OMS a fait le calcul. Depuis le 17 septembre, date des explosions des beepers des membres du Hezbollah, 18 attaques de l'armée israélienne ont visé des bâtiments ou du personnel de santé. Bilan, 72 morts et une quarantaine de blessés. La conséquence, elle est la même qu'à Gaza. Des hôpitaux sous tension et qui ne peuvent plus fonctionner normalement. Christian Lindmeyer, porte-parole de l'OMS.
96 Au sud Liban, 96 centres de santé ont été obligés de fermer leurs portes à cause des bombardements. 5 hôpitaux ont été touchés et sont hors service, et 4 ont dû procéder à une évacuation partielle de leurs patients, y compris ceux qui sont sous dialyse ou qui suivent une chimiothérapie.
Quant à Gaza, rien ne change, ou presque. Les convois de l'OMS sont systématiquement refusés par les autorités israéliennes, après avoir patienté pendant des heures au check point, et ce, alors que les hôpitaux que les humanitaires tentent de joindre sont concernés par des ordres d'évacuation. La campagne de vaccination contre la polio, qui doit redémarrer ce lundi à Gaza, s'annonce donc très compliquée de l'aveu même de l'OMS, dans un contexte de reprise des combats au nord de Gaza. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et depuis dimanche, en effet, l'armée israélienne pilonne le nord de l'enclave palestinienne, encerclant notamment Jabalia, où le Hamas reconstituerait ses forces, selon elle. 30 personnes auraient perdu la vie hier dans cette ville, selon la défense civile gazaoui. Et puis le Hezbollah dit ce matin avoir tiré des missiles sur une base militaire israélienne près de Haïfa, dans le nord d'Israël, où le mouvement chiite libanais revendiquait déjà hier une attaque de drones explosifs. Il avait ensuite appelé les habitants d'Haïfa et d'autres villes du nord vivant près de sites militaires à s'en éloigner. Cette nuit, alors qu'Israël célèbre Yom Kippour, le jour du grand pardon, les sirènes anti-aériennes ont retenti dans plusieurs localités, toujours dans le nord du pays, près de la frontière libanaise.
8h04 à Paris, pas mieux, pas pire.
Mais potentiellement bientôt pire quand même. Voilà comment on peut résumer la note attribuée à la France par l'agence Fitch. Elle reste la même qu'avant, cette note double A moins, l'équivalent d'un 17 sur 20, mais elle s'accompagne cette fois d'une perspective négative. Alors que le déficit du pays s'envole, et le gouvernement français vient d'ailleurs de présenter son budget 2025 pour tenter d'inverser la tendance, mais visiblement ça n'a pas suffi à convaincre l'agence de notation Fitch, qui met en quelque sorte Paris sous surveillance avant le vote de ce budget au Parlement. C'est ce que nous dit Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESSEG, École de Management.
Ce qui pourrait provoquer une dégradation de la note elle-même la prochaine fois, ce serait la capacité effectivement du gouvernement de faire voter des mesures suffisantes pour infléchir la trajectoire du déficit et de la dette publique. Fitch nous dit d'ailleurs qu'il ne croit pas à la possibilité de faire passer le déficit public en dessous de 3% d'ici 2029. Malgré, dit Fitch, que 2029, c'est déjà 2 ans plus tard que les 2027 qui avaient été annoncés précédemment. Et donc, quand même, c'est un constat qui est assez sévère vis-à-vis de l'évolution probable des finances publiques françaises, ce qui me fait dire que finalement, vu ce constat, on peut peut-être être encore content qu'on se soit contenté d'une dégradation de la perspective plutôt que d'une dégradation de la note elle-même, déjà.
Des propos recueillis par Justine Fontaine.
Et le ministre français de l'économie et des finances a dit hier soir prendre acte de cette décision de Fitch.
Antoine Armand, qui quelques heures plus tôt, comme son collègue au budget, était auditionné devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. L'occasion pour eux de défendre ce projet de budget 2025 dont je vous parlais, présenté jeudi. Objectif, on le rappelle, 60 milliards d'euros d'économie, 40 milliards de baisse de dépenses, le reste en recettes supplémentaires, avec notamment des hausses d'impôts pour les contribuables les plus fortunés, pour des entreprises à gros profits aussi. Et ça, ces hausses d'impôts, ça fait grincer des dents dans le camp macroniste, affaibli certes depuis les législatives anticipées, mais toujours incontournable quand même à l'Assemblée nationale. Raphaël Delvolvé, le bloc présidentiel entend bien s'activer pour sauver le bilan économique des 7 premières années d'Emmanuel Macron.
Dès le début de la séquence budgétaire, les poids lourds de la Macronie, Gabriel Attal, ancien chef du gouvernement, et Gérald Darmanin ont émis leurs réserves, pour ne pas dire leur opposition franche aux hausses d'impôts. Cette posture est nettement approuvée dans l'aile droite du parti présidentiel. Un de ses membres confie « Depuis 2017, nous avons retissé la confiance avec les investisseurs, fait reculer le chômage et tout peut s'effondrer sur ce budget ». Et d'ajouter, nous préparons de nombreux amendements pour trouver des solutions de rechange. Le gouvernement tient à ses 60 milliards d'euros d'économies, mais ouvre la porte à des alternatives. Cependant, la marge est extrêmement limitée. Il n'y a pas de majorité absolue dans l'hémicycle. La gauche et l'extrême droite de surcroît peuvent à tout moment mettre le centre et ses alliés en minorité. Cela pourrait donc se jouer hors de la discussion budgétaire. Certains macronistes parlent déjà d'une résurrection du décret sur l'assurance chômage visant à réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Il a été suspendu au moment des législatives de l'été avant d'être abandonné par le successeur de Gabriel Attal à Matignon.
Raphaël Delvolvé.
Politique et économie toujours en Chine cette fois.
5,2% de croissance l'an dernier, ça peut paraître tout à fait correct. C'était pourtant l'un des taux de croissance chinoise les plus faibles en 3 décennies. Et en plus, certains économistes doutent de la réalité de ce chiffre. En tout cas, Pékin annonce ce matin son intention de consacrer quelque 325 milliards de dollars d'obligations pour relancer son économie au cours des 3 prochains mois. Le tout pour soutenir les banques, consolider le marché immobilier, mais aussi libérer les dépenses de consommation. Une enveloppe qui s'ajoute à toute une série d'autres mesures annoncées au cours des dernières semaines. À Pékin, Claire Broadhurst.
La déclaration clé pourrait être que la Chine voit une marge de manœuvre pour augmenter le déficit budgétaire. Au cours des 3 prochains mois, un total de 2300 milliards de yuan de fonds d'obligations spéciales pourra être utilisé dans différents endroits, notamment pour soutenir l'infrastructure et stimuler les investissements. Les mesures consistent toujours à pousser les gouvernements locaux à faire plus, à émettre plus d'obligations pour payer les dettes cachées et à racheter les maisons invendues. Mais les responsables locaux hésitent à participer au programme d'achat de logements parce qu'ils craignent que les prix des logements ne chutent davantage et qu'il n'y ait pas de rendement lucratif dans ce domaine. Les principales banques chinoises ont également déclaré qu'elles réduiraient les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires existants à partir du 25 octobre. Ces mesures visent à stabiliser l'économie chinoise qui cherche à atteindre une croissance de 5% du PIB en 2024. Les analystes estiment que des réformes plus profondes seront nécessaires pour résoudre les problèmes structurels comme la dette dans le secteur immobilier et la faible demande intérieure. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
L'Amérique est occupée, dit Donald Trump.
Occupée par une force criminelle, les migrants à qui l'ex-président et candidat républicain pour l'élection du mois prochain s'en est violemment pris hier lors d'un discours à Aurora dans le Colorado, une ville où, selon lui, les migrants illégaux auraient pris le pouvoir. La faute, dit-il, à l'administration actuelle et notamment à la vice-présidente, son adversaire démocrate dans les urnes, Kamala Harris. Une criminelle, affirme Donald Trump, puisqu'elle aurait permis les arrivées massives aux frontières, provoquant une vague de criminalité aux États-Unis, ce que je précise, et je le précise, aucune statistique officielle ne montre.
Le constat est par contre sans appel en Haïti.
Là-bas, la criminalité est quotidienne. Les gangs armés continuent à semer la terreur. 109 personnes ont notamment été tuées la semaine dernière lors d'une attaque, malgré le début du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Un déploiement trop lent, c'est ce que dit le Premier ministre haïtien Gori Conyi. Il est venu le dire hier au Kenya, qui pilote cette mission. Il a rencontré là-bas le président William Ruto, compte rendu depuis Nairobi avec Gaël Lalex.
600 Kenyans sont en train d'achever leur entraînement pour être déployés le mois prochain. William Ruto veut ainsi montrer sa détermination à mener à bien cette mission, une volonté qu'il aimerait également voir chez d'autres partenaires.
Les Émirats arabes unis se sont engagés à soutenir cette mission. Le Salvador s'est aussi engagé la semaine dernière à fournir des capacités. Nous pouvons faire plus, mais les partenaires doivent s'investir. C'est le moment d'intensifier leurs efforts et c'est le moment de fournir ce soutien critique dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission.
130 millions de dollars manquent encore au budget de la MMAS. Pourtant, son mandat a été prolongé fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU. Gori Conyi, le premier ministre haïtien, aimerait que les finances suivent, car les promesses sont nombreuses, mais rarement concrétisées.
Après l'Assemblée générale de l'ONU à New York, nous avons eu de nombreuses rencontres avec des partenaires. L'Union européenne, par exemple, a doublé ses promesses. On parle de nouveaux partenaires comme le Brésil, le Mexique. Mais on voudrait voir une réponse plus rapide et on va continuer à pousser pour cela.
Pour assurer un financement pérenne de la MMAS, les États-Unis souhaitaient la transformer en mission de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont finalement reculé face au refus de la Russie et de la Chine. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Et cette mission multinationale en Haïti, la situation dans le pays, on en parle à Presse Journal avec notre invité, l'ancien député haïtien Jerry Tardieu.
Blé, soja, maïs, la production mondiale de ces céréales va baisser. C'est ce que prédit en tout cas le ministère américain de l'Agriculture. La faute surtout, nous dit-on, aux conditions météorologiques défavorable. Le climat et sa COP29, ce sera le mois prochain en Azerbaïdjan. Et avant ça, une pré-COP, une rencontre informelle hier à Bakou pour parler notamment du sujet brûlant de la renégociation de l'aide des pays riches à destination de ceux en développement qui réclament davantage qu'actuellement. Mais ce n'est pas gagné. Olga Givernet, la ministre déléguée française à l'énergie, était à Bakou hier.
Une demande de transparence sur les financements et également d'atterrir sur quel est le besoin identifié. On est à plus de 1000 milliards, mais il faut savoir que dans les financements publics des pays en développement, ce ne sera pas ce montant-là qui sera annoncé. En revanche, il peut y avoir un engagement volontaire qui permette de débloquer notamment des financements privés pour atteindre ces objectifs de moyens supplémentaires pour aller aider les pays vulnérables, pour prendre en compte aussi les pertes et dommages liés à des événements climatiques. Et on voit qu'il y a pour le moment une fermeture de la part de ces pays qui étaient identifiés dans l'accord de Paris comme étant des pays en voie de développement et qui ont réussi ce développement et qui pourraient contribuer. Mais les positions des uns et des autres sont posées sur la table. Les engagements qui devront être pris doivent être pesés pour que nous soyons ensuite au rendez-vous de nos engagements.
Des propos recueillis par Simon Rosé, 8h13 à Paris.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. RFI Matin continue et tout de suite les sports. Revoilà Olivier Pron, beaucoup de football au programme. Ce matin, on commence par la Ligue des Nations en Europe.
On jouait hier dans le groupe A, mon cher Julien. Succès 2-1 de l'Allemagne en Bosnie, figurez-vous. Nul un partout des Pays-Bas en Hongrie. Les Allemands sont devant, 2 points de plus que les Néerlandais. Tout va bien. En Amérique du Sud, tant qu'on y a qualification pour le Mondial 2026, le Pérou décroche à domicile contre l'Uruguay 1-0. Sa première victoire dans cette campagne et laisse la 10e et dernière place au classement au Chili après la 9e journée. On rappelle que 6 équipes sur 10 sont qualifiées, voire 7. Un peu plus facile qu'ailleurs.
Aussi en Afrique, Olivier, 16 matchs au programme hier dans le cadre de la 3e journée de qualification à la CAN 2025 au Maroc.
Dans un peu plus d'un an pour Noël 2025, hein, finalement, rendez-vous là-bas. Et déjà de belles options prises en vue de la qualification à valider lundi ou mardi lors de la 4e journée. 3 victoires en 3 matchs par exemple pour l'Égypte, 2-0 face à la Mauritanie hier. Pour la Côte d'Ivoire à San Pedro, 4-1 aux dépens de la Sierra Leone. 9 points aussi pour l'Angola qui a battu le Niger 2-0. C'est pas mal engagé également avec 7 unités au compteur pour le Sénégal, probant vainqueur à domicile 4-0 du Malawi, pour le Mali 1-0 face à la Guinée-Bissau et pour le Cameroun 4-1 face au Kenya. Mais le très joli coup du jour, Julien, c'est le succès 1-0 des Comores, 118e au classement FIFA. Succès en Tunisie, une victoire à l'extérieur qui relance les Comoriens dans la course. Ils reviennent à un point des leaders tunisiens. On écoute la satisfaction mesurée toutefois du sélectionneur Stefano Cuzza.
sûr que c'est une belle performance. Bon, je pense qu'on a fait un bon match, aussi bien tactiquement qu'au niveau de l'engagement. Maintenant, le football, ça va très vite. Hein. Il faut rester humble et travailler. Il y a des matchs. Il y a un autre match qui va se jouer mardi. Et là, c'est sûr qu'il va falloir être à la hauteur parce que ça serait une Tunisie revancharde, certainement une autre équipe. Et donc, l'important, c'est peut-être de se relancer dans la course pour la qualification. Et maintenant, il faut continuer le travail. On est un projet, mais bon, en même temps, on essaye aussi de faire des résultats. Et je suis fier des garçons. Je pense qu'ils ont tout donné ce soir. Et la victoire, c'est le fruit d'un travail collectif.
Match retour mardi à Abidjan pour Cuisin et les Comores, Stéphane Cuisin avec Martin Guèze. Fin de cette troisième journée ce samedi avec Guinée-Éthiopie à 16h TU à Abidjan et à 19h Maroc. République centrafricaine dans un groupe où le Gabon n'a pu faire mieux que 0-0 à Franceville face au Lesotho.
On termine avec du rugby et le retour sur le terrain du top 14 d'un champion olympique.
Eh oui, Antoine Dupont bien sûr, qui n'a plus joué depuis la finale des Jeux remportée fin juillet avec l'équipe de France de rugby à 7. Sa parenthèse dans cette discipline se referme définitivement ce soir. Il revient au rugby à 15 avec le Stade Toulousain. Les champions d'Europe et de France en titre reçoivent Clermont, Toulouse. C'est rare qu'il vienne enchaîner deux défaites de rang. Alors l'entraîneur Hugo Mola est bien content de retrouver son maître à jouer.
Antoine réintègre l'effectif et donc postule de nouveau. Mais Antoine, de par ses performances, n'est plus à présenter. Mais en plus de ne pas être à présenter, c'est les 10 ou 15% qu'il donne à tous ses partenaires par la confiance qu'il suscite, qu'il génère et qu'il rejaillit sur les autres. Il ne faut pas sous-estimer cette chose-là. Mais oui, quand Antoine revient, c'est une très bonne chose, évidemment pour nous tous. Je pourrais vous prendre beaucoup d'exemples où les stars du sport dédié sont évidemment importantes quand elles jouent et pas quand elles font autre chose que de jouer.
Toulouse du Gomola, donc avec Antoine Dupont face à Clermont, 19h05, temps universel. Un dernier mot de tennis, demi-finale ce matin du Masters 1000 de Shanghai. Le Tchèque Machak face au numéro 1 mondial Jannik Sinner et Novak Djokovic contre l'Américain Taylor Fritz.
Merci Olivier Pron, à tout à l'heure. Au Liban, c'est l'une des conséquences directes des frappes israéliennes qui ont poussé des centaines de milliers de Libanais à l'exode. Avec les raids aériens quotidiens sur le pays et notamment la banlieue sud de Beyrouth, les frappes aussi sur le cœur de la capitale et aux abords de son aéroport toujours en activité, le pays se retrouve en grande partie coupé du monde. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
Correspondant des RFI à Beyrouth, on parle ensemble ce matin de la MEA ou Middle East Airlines, la seule compagnie aérienne qui continue de desservir l'aéroport international de Beyrouth, qui est lui-même le seul aérodrome opérationnel au Liban.
Oui, Julien, à part des jets privés ou des appareils affrétés par des pays étrangers pour évacuer leurs ressortissants ou acheminer de l'aide au Liban, plus aucun avion n'atterrit ou ne décolle de Beyrouth à l'exception de ceux de la compagnie nationale libanaise. La MEA est désormais la seule voie d'entrée ou de sortie, surtout depuis la fermeture du principal point de passage frontalier terrestre entre le Liban et la Syrie à Masna, dans l'est du pays. Cette route est coupée par de profonds cratères provoqués par les bombes israéliennes. Les travaux de réparation n'ont pas commencé en raison de l'absence de garantie que les équipes d'entretien ne seront pas prises pour cible par les avions.
Les images d'avions de la MEA atterrissant ou décollant de l'aéroport au moment de raids israéliens ont fait le tour de la toile et des médias dans le monde entier.
La scène est surréaliste et digne des meilleurs films hollywoodiens. Sur des images prises par des caméras de journalistes postées sur les hauteurs surplombant la banlieue sud de Beyrouth ou par des habitants de la capitale, on peut voir des avions de la MEA au décollage ou à l'atterrissage, au moment même où des chasseurs bombardiers israéliens lâchent leurs bombes sur la région. Les frappes très violentes ont souvent lieu à quelques dizaines de mètres de la route de l'aéroport ou à quelques centaines de mètres des pistes. Les images les plus impressionnantes sont celles prises de l'intérieur des avions. Des passagers ou des membres d'équipage ont immortalisé la seconde même de l'explosion d'un missile. Une photo devenue célèbre, prise à travers un hublot, montre une épaisse colonne de fumée s'élevant d'un site bombardé à une courte distance de l'appareil.
La situation de monopole de la compagnie aujourd'hui se reflète-t-elle sur les prix des billets, Paul ?
Au regard des risques encourus par les pilotes, par les membres d'équipage, le personnel au sol et de la forte hausse des coûts des assurances en raison de la guerre, les prix restent raisonnables de l'avis de clients et d'experts. Les prix des billets vers certaines destinations ont parfois grimpé de 20%, mais il reste compréhensible quand on constate les conditions dangereuses dans lesquelles opèrent la MEA et son personnel. Quelque part, cette guerre a réconcilié les Libanais avec leur mythique compagnie nationale qui était très critiquée ces dernières années en raison de la dégradation de ses services et des prix de ses billets jugés abusifs. La MEA est aujourd'hui le seul lien encore existant entre le Liban et le monde extérieur. S'il n'est pas rompu, c'est parce que les pays occidentaux exercent des pressions sur Israël. Le jour où ces pressions disparaîtront ou ne seront plus assez suffisantes, cette dernière porte se refermera.
Paul Ralifet, à Beyrouth pour RFI. On continue bien sûr de suivre avec vous la situation au Liban. Merci beaucoup. 8h20 à Paris, 2h20 à Port-au-Prince. C'était hier au Kenya la visite du premier ministre intérimaire d'Haïti, Gary Conille, à la rencontre de William Ruto, 3 mois après le début du déploiement de militaires kenyans à la tête de la force multinationale censée ramener la paix en Haïti. Le pays toujours plongé dans la violence des gangs qui contrôlent des pans entiers du territoire et notamment 80% de sa capitale. Plus de 3600 personnes tuées depuis janvier selon l'ONU, dont au moins 109 la semaine dernière dans une localité de l'Artibonite. On en parle ce matin avec l'un de ceux qui portent la voix d'Haïti dans le monde, Jerry Tardieu, bonjour.
Bonjour Monsieur Julien Coquet-OM, c'est un plaisir d'être à RFI ce matin.
Un plaisir de vous recevoir également, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, entrepreneur, ancien député en Haïti de 2016 à 2020. Vous êtes aussi le leader du parti politique haïtien En Avant. À Paris cette semaine, vous vous êtes exprimé devant le Sénat français pour donner votre analyse de ce qui se passe en Haïti. Gary Conille était lui, je le disais donc, à Nairobi hier, où William Ruto a promis l'arrivée de 600 policiers kenyans supplémentaires qui seront prêts, dit-il, peut-être dès le mois prochain. Quel bilan tirez-vous déjà des premiers mois de déploiement de cette force ?
Bon, à date, la montagne a accouché d'une souris. Vous l'avez dit, 80% de la capitale haïtienne est otage des gangs. Des gangs qui pillent, qui tuent, qui extorquent, qui violent, sous le regard, je dirais, des fois impassif, ou je dirais plutôt impuissant de la police nationale et des forces armées, que les Kenyans sont censés aider. Les progrès sont minimes, et je pense qu'il va falloir très très rapidement revoir nos copies, surtout celles du gouvernement. Le Premier ministre est au Kenya, j'ai une réserve et un inconfort sur ce voyage. Une réserve parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de crise aiguë que nous sommes en Haïti, il aurait mieux fait de rester en Haïti et d'être au centre de l'action, surtout avec la résurgence de la violence des gangs, vous en avez fait mention. 600 nouveaux soldats en Haïti, promis par le président Ruto. Si tant est que c'est un problème d'effectif qui explique l'inefficacité de la mission kenyenne, même 1 millier de soldats ne va pas faire grande différence.
La mission devrait compter à terme 2500 hommes, dont 1000 Kenyans. Elle n'en est donc à ce stade qu'un stade embryonnaire et souffre pour l'instant aussi d'un manque cruel de financement et d'équipement, notamment de véhicules, ce qui la rend en partie dépendante de la police haïtienne. Le manque de résultats est-il en fait la conséquence d'un trop faible engagement de la communauté internationale pour construire, constituer cette force ?
Le problème n'est pas tant l'effectif. Je crois qu'il y a un flou persistant sur la question du financement. On parle de 600 millions de dollars. Les Américains ont déjà mis 300 millions. Personne ne sait qui va payer les autres 300 millions.
Les autres pays ont mis 85 millions pour l'instant.
Ouais. Donc, on n'est pas encore au bout du compte. Donc, il y a ce
flou. Un peu plus de la moitié.
Donc, on a ce flou déjà. Mais le plus important, c'est que les observateurs avisés, les experts en matière policière et militaire, nous expliquent qu'au fond, il n'existe pas vraiment un plan de sécurité cohérent, homogène, et on va dire que l'action concertée avec la police nationale n'est pas encore de mise. Aujourd'hui, et à date, aucun territoire perdu n'a été récupéré, aucune route nationale n'a été libérée, et je dirais qu'au fond, la peur n'a pas encore changé de camp. Donc, on attend toujours les résultats de cette mission. Et il faut aussi se poser la question sur un rapport coût-opportunité. N'aurait-il pas mieux valu que ces 600 millions de dollars aient été investis dans la modernisation, l'encadrement de la police nationale qui elle-même a la responsabilité des vis et des biens en Haïti ?
C'est la question qui se pose. Certains disent il aurait mieux valu investir cet argent dans les forces haïtiennes puisque d'ailleurs les Kenyans, les soldats étrangers n'ont pas l'expérience des policiers haïtiens face aux gangs et donc ne vont pas en première ligne en partie pour cette raison. Dans ce contexte, quand on voit les États-Unis, quand on voit le Conseil de transition demander à ce que cette mission devienne une mission officielle de maintien de la paix de l'ONU, qu'est-ce que vous répondez ?
Mais écoutez, d'abord, je pense cette demande a été formulée effectivement par les autorités haïtiennes, appuyées par les Américains. Mais il y a le veto russe et chinois. Vous parlez du Conseil présidentiel. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs de RFI qui dirige Haïti aujourd'hui. Ce Conseil présidentiel, en fait, la Constitution d'Haïti prévoit un président chef d'État et un premier ministre chef de gouvernement. Aujourd'hui, un accord politique pour une transition pacifique et ordonnée a mis l'exécutif, les fonctions du présidentiel entre les mains d'un collège présidentiel de 9 membres représentant 9 secteurs politiques qui eux-mêmes ont mis en place un premier ministre qui dirige un cabinet ministériel qui a 24 mois pour exécuter une feuille de route avec 5 grands chantiers de la transition.
Vous pensez que ces 24 mois sont suffisants pour atteindre l'objectif notamment d'élections et d'une transition démocratique ?
Permettez-moi de dire que surtout les 5 grands chantiers qui sont ceux de la transition, on est très très en retard. Et en fait, on a encore une fenêtre d'opportunité pour en arriver à atteindre nos objectifs. Malheureusement, c'est pas encore certain. Ces 5 grands chantiers, à commencer par celui sur la sécurité, qui est la priorité des priorités, je viens de vous le dire, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et de même pour le deuxième chantier, qui est le redressement économique, on n'a pas beaucoup avancé aussi. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de redressement économique sans rétablissement de la sécurité. Et aujourd'hui, en Haïti, c'est la déblaque économique. C'est l'inflation, c'est la vie chère, c'est le chômage. Et en fait, ça se traduit en quoi ? Exode massif des Haïtiens vers l'étranger et avec des répercussions difficiles pour nous. Vous voyez ce qui se passe en République dominicaine. Nos compatriotes sont chassés du territoire dominicain de façon, je dirais, cavalière. Et c'est une occasion pour moi de dénoncer et ces actes, je dirais, qui ne font pas honneur à la République dominicaine, qui peut décider de qui rentre dans ce territoire librement, mais qui doit pouvoir respecter les normes minimales en termes de respect des droits humains. Et ça concerne aussi les Haïtiens.
Pour en revenir à la situation politique, on a par ailleurs appris début octobre que 3 membres du Conseil de transition sont visés par une enquête pour corruption, des pots de vin. Cela fragilise encore plus cette instance dans son travail et sa légitimité aujourd'hui ?
Absolument. Alors, je disais tout à l'heure que la formule du collège présidentiel, elle est difficile. Si l'intérêt du pays ne prime pas sur les intérêts personnels, très certainement que ce conseil porte en lui-même les germes même de sa faiblesse, de ses carences et peut-être même de son échec, qu'on ne doit pas souhaiter. L'échec de cette transition est l'échec de tous les Haïtiens. Alors, sur les accusations, ce matin, j'écoutais le père Gardi Maisonneuve, qui est responsable d'une organisation de droits de l'homme, qui disait qu'il y a 3 dimensions à cette affaire à laquelle vous faites référence. Il y a une dimension politique, juridique et je dirais morale. La dimension juridique, c'est qu'il faut rappeler que ces 3 conseillers épinglés par un rapport de l'unité de lutte contre la corruption ne sont pas condamnés par la justice. Donc, ils bénéficient du droit, bien entendu, la présomption d'innocence. Mais il y a quand même aussi ce qu'on appelle une dimension morale. La présidence haïtienne, que ces allégations soient vraies ou fausses, est abîmée, un peu désacralisée. Et la dimension, je dirais, politique, elle est importante parce que, en fait, cette affaire plombe la transition alors que nous avons vraiment des priorités. Et le parti en avant qui fait de la bataille contre la corruption cheval de bataille aimerait que les autorités judiciaires fassent la lumière le plus vite que possible pour qu'on puisse passer à autre chose et que la société soit édifiée.
Et dans le temps qu'il nous reste, quelques secondes, vraiment, dans le contexte actuel, on voit ressurgir le débat sur la dette coloniale que la France a imposée à Haïti. Le rôle que la France doit jouer aujourd'hui passe-t-il par des réparations ?
Oui, je pense qu'il faut, sur cette affaire, une approche empreinte de justice mémorielle pour soulager moralement la France et pour réparer les torts causés à Haïti. Alors, cela participe aussi d'une volonté de jeter des ponts vers l'avenir, parce que Haïti et la France sont 2 pays amis, mais je pense que, comme disait Jean-Marc Ayrault, il faut trouver le bon élixir qui va panser cette plaie toujours vive.
Merci Jerry Tardieu, ancien député haïtien, avec nous dans ce studio aujourd'hui. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Merci.
L'Agence universitaire de la francophonie organise du 14 au 18 octobre à Toulouse la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Au programme, ateliers, conférences à suivre en présentiel ou en ligne pour explorer le rôle de la diplomatie scientifique francophone face aux défis de l'avenir. Plus d'informations sur auf.org ou sur les réseaux sociaux de l'AUF. En partenariat avec France Média Monde.
Géopolitique.
Au-delà de la guerre de Gaza et des tensions entre Israël et l'Iran, les recompositions en cours au Moyen-Orient montrent une affirmation certaine de l'autonomie stratégique de plusieurs puissances régionales, de même qu'un basculement géopolitique au profit de la Russie et de la Chine. Dans quelle mesure la situation actuelle confirme et renforce cette évolution ? Éclairage avec des spécialistes.
Géopolitique, Marie-France Latin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.